Merci, merci beaucoup. Merci à vous tous. J'espère que votre pause déjeuner s'est bien passée. Je remercie aussi ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de Territoire Connecté. Cet après-midi, on vous l'avait annoncé, nous allons parler des enjeux du fixe. Je ne vais pas reprendre mon introduction de ce matin. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous aurez l'occasion de la lire. Mais rappelez que le plan France Très Haut Débit amène aujourd'hui à 93% de locaux raccordables en France. On peut en être collectivement fiers. C'est l'engagement des opérateurs, de l'État et des collectivités pour apporter la fibre partout dans tous les territoires. C'est une promesse technologique forte qu'on apporte aux Français. C'est aussi quelque chose qui met la France maintenant au premier rang des pays connectés en Europe et même dans le monde. La bonne nouvelle aussi, je le disais, c'est que la fibre, les Français ont une appétence pour la fibre, parce qu'aujourd'hui, 75% des abonnés filaires sont sur la fibre. Mais je disais aussi, pour en faire pleinement un succès, on a encore des enjeux devant nous. Alors, bien sûr, finir les déploiements, et nous allons en parler certainement dans cette table ronde, comme le fait de passer du raccordable au raccordé. Enfin, un sujet qui est pleinement d'actualité en lien avec les collectivités, c'est garantir l'économie des réseaux d'initiative publique dans le temps, garantir la pérennité en fait des réseaux fibres qui sont construits dans chacun des territoires. Alors c'est des questions d'équilibre financier bien sûr, mais des questions aussi de résilience. Et puis, dernier sujet et loin des moindres, c'est d'assurer la fermeture du réseau cuivre dans bonnes conditions pour tous les Français et pour toutes les entreprises. J'y ajouterai un sujet que j'ai peu évoqué ce matin et vous y reviendrez peut-être dans cette table ronde, c'est bien sûr les enjeux de qualité. Alors, il y a des progrès qui ont été faits et je salue la mobilisation de l'ensemble des opérateurs pour mettre en plan le plan d'action en œuvre, plan d'action qui nous avait été présenté au ministre et à moi-même en septembre 2022. Mais l'ARCEP restera très vigilante pour que les efforts se poursuivent et qu'on arrive au niveau de qualité attendu par les Français. Voilà, pour cette table ronde de cet après-midi, je vais appeler sur scène Marie-Christine Servant, membre du collège de l'ARCEP, qui va vous présenter le déroulé de l'après-midi. Je vous remercie.
Merci Laure. Comme on est déjà un tout petit peu en retard, 3 minutes, et qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas être en retard, je vais, avant cette table ronde qui va porter sur la qualité et la pérennité des réseaux, je vais appeler Ghislain qui va venir nous faire un petit état des lieux des travaux de l'ARCEP sur les réseaux fibres. Je ne sais pas où il est passé, mais il est là.
Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être à nouveau devant vous aujourd'hui pour s'arrêter ensemble assez brièvement sur les principaux sujets sur lesquels nous concentrons nos actions. Alors, je n'ai pas besoin d'annoncer du coup mon plan, puisque la présidente de l'ARCEP, Laure de la Raudière, vient de le faire parfaitement avec tous les sujets qui ont été égrenés les uns après les autres. Donc, je vais y revenir, mais je n'ai pas besoin d'annoncer ces sujets. Si on commence sur la couverture des déploiements FTTH, voilà. Ce chiffre qui a été dit il y a un instant, 93% de couverture à la fin juin 2025, 93% donc des locaux qui sont raccordables au FTTH, c'est un chiffre tout à fait satisfaisant, mais quand même trois remarques. D'abord, il reste quand même à faire un certain nombre de déploiements. 3,3 millions de locaux à déployer. Et naturellement, ce n'est pas toujours les derniers locaux qui sont les plus faciles à déployer. Deuxième remarque, on observe de plus en plus que les taux, en fonction des différentes zones que vous connaissez bien, sont en train de se rassembler. On a une dynamique qui est un peu en décrue sur les zones RIP et les zones AMEL. C'est bien naturel. En fait, on a des projets de RIP qui arrivent aujourd'hui à leur achèvement. Il reste que quelques départements en RIP sur lesquels il y a un peu de chemin à faire, mais les projets sont engagés. La zone très dense nous inquiète un petit peu, je vous le dis. On a sur le deuxième trimestre 2025 eu 20 000 locaux qui ont été rendus raccordables. Il en reste 480 000. Donc, dans la perspective de la fermeture du cuivre, c'est un sujet. Là, je peux aller très vite. Hein. On suit également les abonnements sur le marché du haut et du très haut débit. On est presque à 79% désormais à la fin du T2 sur la technologie fibre sur ces marchés. C'est un chiffre qui est tout à fait remarquable quand on regarde un petit peu les comparatifs internationaux. Mais là encore, quelques enjeux tout de même, notamment dans la fermeture du cuivre. On sait qu'il y a des enjeux de migration pour certains abonnés, certaines entreprises qui vont être tout à fait importants pour que cette fermeture se passe bien. J'y reviendrai tout à l'heure. Une des obligations qui pèsent sur les opérateurs d'infrastructures, c'est notamment celle de la complétude, que vous connaissez bien. Il faut qu'un opérateur d'infrastructure déploie un réseau qui permet d'aller rendre raccordable la totalité des logements et des locaux à vocation professionnelle dans un délai raisonnable, et c'est quelque chose qu'on surveille à l'ARCEP, et ça nous amène, ça fait partie de nos travaux que je mentionne ici, le cas échéant, à parfois ouvrir des procédures. C'est ce que nous avons pu faire récemment, et c'est ce que possiblement nous pourrions continuer à faire. Le but toujours de ces procédures, c'est à la fin d'obtenir des déploiements complets et rien d'autre. Évidemment, on a une autre action sur la complétude que je tenais à mentionner, c'est tout ce qu'on a engagé cette année sur la recommandation qu'on a publiée au printemps, qui visait à préciser sur un certain nombre de sujets qui sont représentés ici, les pratiques, les processus, les justifications, documentation qu'on attend de la part des OI sur qui les refus et blocages, qui les locaux qui sont identifiés comme raccordables à la demande. On est venu également préciser un certain nombre de choses sur les raccordements des immeubles neufs, sur le traitement des zones d'activité et des lotissements. Donc concrètement, sur cette question, aujourd'hui, on est dans une phase d'accompagnement des opérateurs pour que ça se passe le mieux possible. C'est important, la complétude, c'est important en soi parce que c'est une obligation. C'est surtout important parce qu'à la fin, pour que la fermeture du cuivre se passe bien, il faut qu'on ait des réseaux complets. Les coûts d'exploitation des réseaux FTTH d'initiative publique, sujet évidemment très important pour le régulateur, qui n'est pas nouveau, ce n'est pas un sujet dont on se préoccupe depuis quelques mois, mais plutôt plusieurs années. Vous le savez bien, on travaille depuis de nombreux mois avec des opérateurs pour obtenir un certain nombre de données. On est passé à une étape supplémentaire à l'été en publiant, comme nous l'avions annoncé, une consultation publique qui est ouverte jusqu'au 10 octobre. On essaye, dans ce texte, en fait, de construire de remplir un objectif qui est celui de disposer à la fin d'un cadre commun entre les acteurs, cadre commun sur une vision commune et objective des coûts en phase de vie du réseau. Donc c'est ce qu'essaye de faire cette consultation, en proposant à la fois une approche sous forme de formule, mais aussi en proposant une catégorisation de coûts sur lesquels on appelle de la part des acteurs un certain nombre de contributions les plus concrètes possibles, évidemment. Notre objectif, ça va être de proposer un modèle de référence des coûts de maintien en conditions opérationnelles d'un réseau en fibre optique exploité par un opérateur d'infrastructure a priori efficace. À l'issue de la consultation publique, notre ambition, c'est de pouvoir proposer cette modélisation avant la fin de l'année. Ces travaux de modélisation pour nous pourraient servir à l'instruction non seulement d'abord des dossiers tarifaires qui nous sont soumis, favoriser surtout, sur la base d'une référence la plus partagée possible, d'éventuelles négociations entre les opérateurs d'infrastructure et les opérateurs commerciaux. dans l'intervalle, hein, cette consultation publique est toujours en cours. Il ne faut pas hésiter, et beaucoup d'entre vous le font, à venir nous voir pour travailler sur ces questions-là, partager avec nous un certain nombre de données ou de modèles. Et voilà, il ne faut vraiment pas attendre nécessairement des échéances formelles pour venir travailler sur ces questions avec nous. L'accompagnement du plan de fermeture du cuivre, là aussi un gros morceau de notre activité. Alors, ce n'est pas nouveau, hein. Figure ici sur cette planche ce qui constitue finalement nos principales missions sur ce dossier. L'ARCEP est venu préciser le cadre de fermeture du réseau cuivre d'Orange, et donc notre action se déploie un peu de quatre façons désormais. C'est d'abord de suivre l'avancée du plan de fermeture d'Orange, de façon plus concrète, s'assurer au fur et à mesure qu'on atteint des étapes dans ce plan, s'assurer que les critères qui sont posés par le cadre sont respectés, et le principal d'entre eux, évidemment, qui est celui du déploiement au préalable de réseau FTTH pour prendre la relève. Mais pas seulement, le cadre prévoit aussi qu'il y a un certain nombre d'offres, à la fois pour le marché grand public et entreprise, qui soient présentes. On veille aussi à ce que Orange fasse un pilotage de qualité de ce plan. Ça passe notamment par la transmission de pas mal de données. Et puis, on participe le plus activement possible à la gouvernance du plan, et puis avec notre périmètre à nous, à des enjeux de communication autour de cette fermeture du cuivre. Alors 2025, c'est pas une année comme les autres, mais aucune année comme les autres, mais 2025, c'est une année particulière pour le plan de fermeture du cuivre, parce qu'on a franchi une étape. On a franchi une étape qui nous emmène en fait vers vraiment résolument dans l'industrialisation de la fermeture du cuivre. Il y a une sorte de bascule, et donc on peut citer au cours de l'année d'abord la fermeture du Lot 1, fermeture technique du Lot 1, qui s'est plutôt bien passée, la fermeture commerciale du Lot 2, qui a eu lieu également au mois de janvier, comme le Lot 1, où on a eu à gérer collectivement, et Orange au premier chef, un certain nombre de reports de communes, tout simplement parce que ces communes n'étaient pas prêtes pour que la fermeture du cuivre se passe parfaitement bien. C'est pas sur la planche, mais je mentionne également, parce que c'est un fait marquant de l'année, on a eu des fermetures techniques dans les zones très denses en 2025. Le centre-ville de Rennes, la commune de Vanves, là aussi ça s'est bien passé. À peu près 33 000 locaux qui ont été fermés techniquement. Et puis la grande actualité désormais pour ce dernier trimestre, c'est de préparer avec les opérateurs et avec tous les acteurs d'ailleurs concernés les échéances de janvier 2026, fermeture commerciale générale. Il y a eu déjà des reports sur celle-ci. Il devrait peut-être en y avoir d'autres. C'est assez logique. Donc on regarde ça de très près avec les opérateurs. Et évidemment la fermeture technique du Lot 2, qui est un rendez-vous très important pour ce mois de janvier 2026. Qualité d'exploitation des réseaux FTTH, c'est mon dernier chapitre avant de passer la parole à nos prochains intervenants. Ça va faire une transition vers leur intervention. Donc c'est un sujet évidemment très important pour nous, qui reste très important. On a un outil qu'on a mis au point pour suivre de près cette qualité d'exploitation des réseaux FTTH, c'est l'Observatoire de la qualité de ces réseaux. Ça a été un peu laborieux à faire sortir cet observatoire. Il s'est amélioré au fil des éditions, il s'est enrichi au fil des éditions. On a sorti sa dernière version, la sixième édition, au mois de septembre. Qu'est-ce qu'on y voit ? Eh bien, on voit quand même une confirmation des tendances qu'on observait déjà préalablement, avec des améliorations très nette sur les questions d'échec au raccordement et de panne. On voit des réseaux qui ont fait l'objet d'une reprise, qui singulièrement se sont améliorés sur ces indicateurs. Demeure quand même quelques inquiétudes sur un plan de reprise en Île-de-France, où on surveille de très près ce qui se passe, puisque les taux sont encore assez divergents par rapport à la moyenne nationale. Cet observatoire nous permet de suivre également depuis deux éditions la qualité des raccordements qui sont effectués par les opérateurs commerciaux. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des différences entre les opérateurs. Ce qu'on voit également, c'est qu'il y a des disparités entre ces opérateurs pour reprendre les malfaçons. L'échantillon sur lequel on travaille est encore un peu réduit, mais ça reste toutefois intéressant. On espère que pour les prochaines éditions, on pourra étendre cet échantillon. On essaye d'enrichir également cet observatoire avec des indicateurs qui rendent mieux compte de l'expérience vécue par les utilisateurs. Et donc, notamment lors du dernier observatoire, on a publié un indicateur sur les utilisateurs affectés par au moins une panne au cours du mois, qui montrait une certaine corrélation avec l'indicateur historique, si je puis dire, qu'on suit depuis le début sur le SAV. Alors, sur cette question de la qualité, d'abord, on va continuer à faire vivre cet observatoire, mais surtout, notre message, c'est qu'il faut, continuer. Il est trop tôt, trop prématuré pour tirer des conclusions définitives, selon nous. C'est dans la durée qu'on pourra apprécier les effets du plan d'action de la filière tel qu'il a été pris devant nous, lors de la Rodière et devant le ministre en charge des communications électroniques en 2022. Et donc, il faut continuer. J'aurais juste finir avant de passer la parole sur peut-être deux petits zooms sur des chantiers un peu plus spécifiques de ce dossier de la qualité de service. D'abord, les plans de reprise, pour vous donner à voir une photographie un peu de l'état des lieux de ces plans de reprise. Le plan d'XP Fibre s'est achevé au premier semestre 2025. Il semble avoir apporté des résultats significatifs, même s'il y a des petites actions complémentaires qui doivent cibler certains territoires, et c'est le cas d'ailleurs. Je veux dire par là que XP Fibre s'en acquitte. Le plan d'altitude poursuit la deuxième phase du plan Spring, qui vise à reprendre la totalité des réseaux excavage de l'Essonne à l'horizon fin 2025. Et puis, côté réseau optique de France, on a également là une poursuite du plan de reprise structurelle des PM de grande capacité jusqu'à la fin de l'année 2026. Zoom également sur certaines actions spécifiques de la filière pour améliorer le contrôle des interventions sur le terrain, les comptes rendus d'intervention qui sont en place, qui vont s'enrichir prochainement pour intégrer davantage d'actes des techniciens. Une nouvelle version de l'outil e-intervention qui permettra des reconnexions à chaud des abonnés impactés, le cas échéant, par des défauts d'exécution de la part des techniciens sur place. Ils auront la capacité immédiatement d'agir pour rétablir la situation. Donc là, il y a une expérimentation qui se lance en ce moment et qui devrait donner lieu à une généralisation, a priori, on l'espère, d'ici la fin de l'année. Et puis, je mentionne également le démarrage de travaux un peu nouveaux sur les réalignements de référentiels ici, qui est un sujet un peu technique, mais tout à fait important, où on a une expérimentation, là aussi, qui démarre entre les opérateurs, de telle sorte qu'on ne crée pas de nouveaux désordres pour les années à venir. Voilà, j'en ai fini. Et ça, c'était la vision ARCEP. Je crois que maintenant, on va avoir la vision un peu plus de la filière.
Merci beaucoup, Ghislain. Effectivement, on a donc cette table ronde autour de la pérennité des réseaux. La pérennité des réseaux en fibre optique, elle s'articule autour de trois axes. Leur qualité, la qualité de leur construction, leur pérennité économique, et également la résilience des architectures, en cas de problème climatique, par exemple. Pour démarrer sur la qualité des réseaux, j'appelle Romain Bonenfant, directeur général au sein de la FFT, et Ilham Djaïch, présidente d'Infranum. Ilham, attrape le micro. Vous en avez un chacun. Peut-être qu'on peut commencer par rebondir. Il marche ton micro ? Peut-être qu'on peut commencer par rebondir un peu sur les chiffres qu'a présenté Ghislain tout à l'heure. Romain, est-ce que vous avez des commentaires sur ces chiffres qui viennent d'être présentés ?
Très bien, oui, merci Marie-Christine. Bonjour à tous. Alors oui, les chiffres ont été rappelés par Ghislain et je voulais d'abord commencer par saluer le travail qui est fait par l'ARCEP sur cet observatoire qualité de service qui est devenu une référence dans le secteur, quelque chose qui est attendu comme les autres observatoires de l'ARCEP. Et notamment, là aussi ça vient d'être rappelé, il y a eu un élargissement récent des indicateurs qu'on peut consulter. On avait, nous, Fédération française des télécoms, fait une demande en ce sens en septembre 2023, avec d'abord une gamme d'indicateurs pour regarder la perception finale du client. C'est un peu la vision 360 de la qualité, parce que le client, je crois qu'on le sait tous, notamment chez les opérateurs, il n'en a pas grand-chose à faire de savoir si les problèmes de qualité, c'est de la faute de X ou Y. Il veut que ça marche. Et donc pour ça, c'est intéressant d'avoir des indicateurs qui mesurent finalement la performance de la filière. Alors pour rentrer dans le détail et avoir des actions, il faut regarder les indicateurs liés aux uns et aux autres. Bien évidemment, c'est indispensable. Mais avoir cet indicateur de performance performance de la filière, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à suivre dans le temps. Donc c'est le cas maintenant avec le suivi des mises en service en moins de 60 jours. Quelque chose qu'on avait demandé, alors nous on avait demandé le taux de clients sans panne parce qu'on est des incorrigibles optimistes. Donc là c'est les clients qui ont eu au moins une panne dans les 1 mois, ce qui revient à peu près à la même chose, hein, bien sûr. Et puis également d'autres indicateurs qui mesurent la performance des processus industriels des OC. Donc il y avait déjà pour les OI, c'est important d'avoir en parallèle les OC et donc en particulier la qualité des raccordements. Comme ça a été dit, ce sont des indicateurs qui sont intéressants, qui devront s'enrichir aussi en matière de qualité des données. C'est le cas sur cet indicateur des qualités des raccordements des OC où pour l'instant il n'y a qu'un seul OI concerné, mais c'est lié bien sûr à la disponibilité des données. Donc tout ça, ça peut s'améliorer. Après, si on regarde ce qu'il y a derrière ces indicateurs et les tendances, même si tout ça c'est préliminaire et il faut que ça se confirme, etc., on voit bien que ça va quand même dans le bon sens de manière assez claire. Si on prend l'indicateur phare qui a été publié dans ces observatoires, celui des réseaux qui dépassent le 1% de taux de panne, si on suit ce taux de panne, donc les réseaux qui dépassent le 1% de taux de panne, c'était 9 réseaux à la première édition de l'observatoire en juillet 2023. Aujourd'hui, c'est 3 réseaux. Et si on regarde les abonnés concernés, globalement, ça a été divisé par 9. Donc c'est une amélioration qui est quand même tout à fait sensible. Et si on regarde aussi ce nouvel indicateur sur le taux des clients qui ont eu au moins une panne en 1 mois, on voit que sur la courte période qui a été analysée, donc entre janvier de cette année et le mois de juin, on est passé de 2,15% à 1,66%, c'est-à-dire, pour être clair, que les problèmes ont été réduits de 20%. Donc évidemment, là aussi, c'est très préliminaire, il faut que ça se confirme dans le temps. Et enfin, la conclusion que nous, on tire de cet observatoire, c'est que le plan qualité de la filière commence à montrer ses fruits, et quand même que globalement, on est dans la bonne direction. Alors la qualité, on le sait tous, c'est le cas dans toutes les industries, c'est pas une destination, c'est pas quelque chose qu'on atteindra un jour, c'est une espèce de discipline permanente, mais en tout cas, ce qu'on tire de ces indicateurs, c'est qu'on est sur le bon chemin, on ne s'est pas trompé, il ne faut pas changer, il faut continuer, on a tout un travail sur les outils, mais on va en parler après, et donc on souhaite continuer sur ce chemin, je pense, et c'est le cas de toute la filière.
Ilham, est-ce que vous partagez cette analyse côté Infranum ?
Alors déjà, moi, je suis ravie d'être ici au Territoire Connecté. Je vous remercie pour cette invitation. Je voudrais aussi, au nom d'Infranum, remercier tout le travail qui est fait avec les équipes de l'ARCEP, avec les membres du collège, avec les services. Alors l'Observatoire, je viens de réaliser que c'est la 6e édition. Je n'avais pas réalisé qu'on était déjà à la 6e édition. Je voudrais d'abord dire que l'Observatoire publié par l'ARCEP est indispensable. C'est important de le dire. On l'attendait, on parle de QS, de qualité, indispensable. Alors pourquoi ? D'abord, c'est un outil collectif. On va aussi un peu se l'approprier, nous, la filière, puisqu'en fait, il est construit par des données des opérateurs commerciaux et par des opérateurs d'infrastructures. Et puis aussi parce qu'il reflète l'engagement de toute la filière. Alors je vais d'abord aussi exprimer qu'il y a des initiatives concrètes qui ont été établies pour améliorer la qualité de service, qui sont des programmes assez ambitieux, des plans de reprise qui ont été respectés et engagés par les opérateurs d'infrastructures. Je pense à Altitude Infra, je pense à XP Fibre et je pense qu'à Réseau Optique France. Je voudrais aussi souligner tous les efforts qui ont été faits par les sous-traitants sur le terrain, tout le travail qui a été établi par toute la chaîne de sous-traitance, mais aussi au niveau des systèmes d'information. Et alors je vais aussi dire cocorico positif sur les résultats qui ont été établis et je partage tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'en 2 ans, le nombre de réseaux avec un taux de panne supérieur à 1% est quand même passé de 9 à 3. Ça correspond quand même à 420 000 abonnés en 2023 à 48 000 abonnés en 2025. Et puis la part d'utilisateurs ayant subi au moins une panne dans le mois est passée, alors j'ai arrondi, Romain, j'ai mis 2,2% à 2024 à 1,7% début 2025. Donc déjà, je voudrais aussi dire que ces indicateurs traduisent la résilience de la filière. C'est une filière qui sait corriger ses difficultés, qui renforce ses processus et qui progresse collectivement pour fiabiliser les réseaux. Mais il y a quand même quelques axes de vigilance et permettez-moi de les exprimer ici. La première, c'est la qualité des raccordements. C'est bien que les citoyens soient abonnés à la fibre. C'est quand même bien de mesurer la qualité des raccordements avec les nouveaux indicateurs sur les malfaçons critiques. Il faut quand même noter que 7 à 9% de ces raccordements ont des malfaçons critiques. C'est quand même assez majeur, dans le cadre où, quand on parle de qualité de raccordement et de malfaçon critique, on parle d'exploitation de nos réseaux dans le temps. La deuxième, c'est, je vais vous parler des effets de bord dans les calculs. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent aussi fausser la lecture des résultats. Il faudra être extrêmement vigilant, j'ai entendu qu'il y a des nouveaux indicateurs et que l'Observatoire continuera à s'enrichir, à ces volets. Je vais donner un exemple, quand un opérateur d'infrastructure va durcir ses critères d'acceptation lors d'un compte-rendu de raccordement, il décide de considérer que c'est un non-OK. L'effet statistique, c'est l'augmentation des échecs de raccordement à court terme. Alors qu'en fait, là, l'opérateur d'infrastructure, il assure une exploitation dans des bonnes conditions à long terme. Donc, il faudra aussi être très vigilant aux biais, aux effets de bord dans les calculs. Et donc, peut-être la demande de la filière est aussi que comme ce sont des données qui sont publiées par un ensemble d'acteurs, il faut que la publication des acteurs doit être accompagnée d'un vrai débat contradictoire entre l'ARCEP et les acteurs. Ça a été assez fastidieux sur les premiers observatoires. Il faut toujours s'assurer de la crédibilité des chiffres et donc de la confiance qu'on ait tous dans l'observatoire et assurer du coup à ce que toutes ces données soient contredites, tamponnées par l'ensemble des acteurs.
Romain, est-ce que vous voulez revenir sur les derniers audits OC de la FFT ?
Oui, tout à fait. Alors, pour revenir en fait sur un élément clé du plan qui avait été présenté par la filière en septembre 2022, on a cette notion d'auto-certification des sous-traitants. Alors, l'auto-certification, on l'a toujours dit, c'est évidemment pas une fin en soi, puisqu'il suffit de dire qu'on est certifié, mais c'est en fait une porte vers une capacité à contrôler et améliorer effectivement ce que font les sous-traitants. Donc, on a fait l'analyse des audits qui ont été faits par les opérateurs commerciaux, donc qui sont complémentaires de ce que font les opérateurs d'infrastructure en 2024. Donc, il y a eu 230 000 audits réalisés par les opérateurs commerciaux, donc c'est un chiffre important, c'est plus que 2023. Et dans ces 230 000 audits, on en a 70% qui amènent à la conclusion qu'il y a zéro problème. On a 30% des audits qui amènent à se dire qu'il y a des améliorations possibles. La plupart correspondent à des manquements qui sont mineurs. Et dans ces 30%, si on regarde la répartition entre la typologie des manquements qu'on peut trouver, on va avoir en premier lieu du non-respect des gestes techniques, c'est 89% des cas parmi ces 30% de problèmes. 19% sont des problèmes de sécurité et 7% des problèmes autres, par exemple des problèmes de documentation, de comportement, etc. Et en fait, l'auto-certification, elle se traduit ensuite par une capacité des opérateurs commerciaux à agir vis-à-vis de leurs sous-traitants ou des intervenants, et donc avec une palette de mesures qui vont de ne plus prendre, délister le sous-traitant ou l'intervenant concerné, mettre des pénalités financières aux sous-traitants concernés, faire des audits de suivi, faire tout simplement des remarques en vérifiant que c'est suivi dans le temps. Voilà, donc il y a un outillage des opérateurs commerciaux via l'auto-certification qui leur permet d'agir concrètement au travers des audits et des problèmes qui sont constatés sur le terrain.
En ce qui concerne l'évolution des outils, Ghislain Heut parlait tout à l'heure de l'évolution des outils dits d'intervention. Est-ce que ça va améliorer quand même le mode de fonctionnement et aller dans le bon sens ?
Alors effectivement, l'intervention le 2, c'est vraiment une étape majeure pour la filière et l'amélioration de la qualité et du travail en commun finalement entre les opérateurs d'infrastructure et les opérateurs commerciaux. Donc l'intervention le 2, c'est une proposition qu'on avait faite en septembre 2023 au ministre concerné et à l'ARCEP, qui visait à faire évoluer les outils pour être capable d'abord d'avoir un grand registre de toutes les interventions au point de mutualisation, c'est-à-dire qu'on sait tout ce qui se passe pour toutes les natures d'intervention, c'est horodaté, on sait qui est intervenu, on est capable de remonter au problème. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, et c'est ça qui est vraiment nouveau, c'est ce qui est disruptif dans une intervention l'O2, c'est que le technicien d'un opérateur commercial qui va intervenir au PM et qui, par mégarde, va déconnecter le client d'un autre opérateur, sera en temps réel informé de cette difficulté. Donc, il est capable de voir en temps réel si, effectivement, il y a une nouvelle malfaçon ou pas. Et en fait, le troisième élément, c'est que pour les opérateurs qui le souhaitent, je vais revenir après, il y a la capacité d'agir, c'est-à-dire de reconnecter le client d'un opérateur commercial autre que celui pour lequel le technicien travaille lorsqu'il est au PM. Donc c'est quand même très fort, puisqu'on a comme un technicien d'un opérateur A qui intervient au PM, par mégarde, il déconnecte ou il fait une malfaçon qui affecte un client de l'opérateur B, il peut tout de suite s'en rendre compte et en plus le corriger. Donc ça, c'est vraiment une évolution majeure dont on attend des résultats très concrètement. Ça arrive sur le terrain là maintenant, l'expérimentation commence et ça va s'élargir progressivement. Donc entre globalement aujourd'hui et puis le le mois d'avril, ça va s'étendre progressivement. Aujourd'hui, côté opérateurs commerciaux, entre trois opérateurs, Orange, SFR et Bouygues Télécom, il y a des discussions avec Free et on espère que Free pourra rejoindre cette démarche puisqu'on pense que c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'outiller encore plus la capacité des opérateurs à travailler ensemble de manière efficace.
Ilham, vous avez quelque chose à ajouter sur cette évolution des process? Et est-ce que l'évolution des process est reflétée par une évolution contractuelle entre OI et OC qui permet d'aller également dans le bon sens?
Alors, sur e-intervention V2, je pense que c'est une avancée extrêmement concrète et il faut aussi mesurer l'effort collectif. En fait, on est en train d'interconnecter tous les six opérateurs d'infrastructure, opérateurs commerciaux. Sur la V1, c'était de l'info. Et sur la V2, un technicien peut agir concrètement pour corriger en live. Donc c'est évidemment très attendu. Il faut aussi noter que pour que ça fonctionne, il faut que tous les opérateurs jouent le jeu, c'est-à-dire que tout le monde ait bien fait les évolutions nécessaires pour avoir e-intervention V2. Les opérateurs d'infrastructure ont bien sûr démarré et finalisé leur développement, et c'est en train de se faire avec les opérateurs commerciaux. Donc, on est extrêmement impliqué de manière collective et toute la filière à ce que l'intervention V2 arrive de manière effective. Sur les engagements de la filière, je voulais juste marquer le temps aussi sur les engagements qui ont été pris par la filière en septembre 2022. Je conclurai du coup sur la partie contractuelle, si vous le voulez bien. Pour marquer le temps, il est important de rappeler que la filière a pris des engagements forts en septembre 2022 et la présidente l'a rappelé d'ailleurs en introduction. C'est des engagements qui ont été pris sous forme d'un communiqué commun Infranum FFT, donc c'est vraiment des engagements collectifs. Et puis je voulais vous les résumer, ce qui a été engagé en 2022, et de vous dire de manière assez objective où on en est aujourd'hui. Trois engagements principaux, on en a plusieurs mais je les ai résumés en trois points. Le premier, encadrer la sous-traitance avec un maximum de 2 rangs de sous-traitance, renforcer la formation des techniciens et prévoir des audits de terrain. Donc à la fois par les opérateurs commerciaux et les opérateurs d'infrastructure. Donc on en a parlé tout de suite d'ailleurs des audits. Le deuxième engagement, transmettre régulièrement les plannings d'intervention aux opérateurs d'infrastructure pour permettre des audits à chaud, c'est-à-dire en temps réel. Le troisième, c'est fournir systématiquement un compte-rendu d'intervention avec photos pour vérifier la conformité des raccordements. Donc on est en 2022, 3 ans après, où en est-on sur les engagements de la filière ? Le premier, oui, la règle des 2 rangs de sous-traitance est globalement respectée. Et on observe évidemment un investissement réel dans la formation des techniciens. Je pense que sans doute qu'à la table de ronde après, on expliquera que les opérateurs commerciaux se sont investis, les sous-traitants aussi, les opérateurs d'infrastructure aussi. Je dis globalement, il peut aussi y avoir pas forcément 2 rangs partout de manière à 100%, mais globalement c'est respecté. Oui, les opérateurs commerciaux transmettent désormais leur planning d'intervention. D'ailleurs, on les reçoit en moyenne 2 fois par semaine. Et oui, les comptes rendus photos sont transmis dans environ 90% des cas lors des raccordements. C'est même devenu une norme dans l'exploitation de nos réseaux FTTH. C'est un progrès évidemment tangible. Je vous rappelle qu'on était parti quasiment de très loin. Mais il y a aussi des limites qu'il faut reconnaître. Le premier sur la formation, l'effort a été évidemment établi, il faut qu'elle continue à être renforcée, sans doute d'avoir une meilleure visibilité des formations des techniciens pour les opérateurs d'infrastructure. Sur les plannings d'intervention, le rôle quand même, c'était de pouvoir faire des audits à chaud, c'est-à-dire que les opérateurs d'infra contrôlent en live une intervention de raccordement. Eh bien là, malgré la fourniture des plannings d'intervention, on peut dire qu'en moyenne, dans 70% des cas, aucun technicien n'est présent sur site. Donc c'est coûteux pour l'opérateur d'infrastructure, puisqu'il fait des audits à chaud, mais malheureusement, c'est peu efficace pour l'ensemble de la filière. Donc il faut fiabiliser les plannings d'intervention. Sur les comptes rendus photos, ils sont bien transmis pour les raccordements. D'ailleurs, il y a beaucoup de chantiers qui sont établis pour fournir d'autres photos, plus de photos, et intensifier ce volet-là de contrôle au niveau des raccordements. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas forcément fournis pour le churn et le SAV, sans doute qui représentent quand même pourtant 30 à 50% de l'activité, et sans doute qu'à terme, cela compromet la traçabilité complète des interventions, et sans doute qu'il faudra y travailler aussi jusqu'au churn et au SAV. Et enfin, donc c'est des engagements de filières qui ont été pris il y a 3 ans, qui ont eu un engagement, et j'applaudis, et je pense que collectivement, on peut être assez fiers de ce qui a été fait en 3 ans. Cependant, le point le plus délicat reste la difficulté à rendre ces engagements pleinement opposables. Puisqu'en fait, la signature d'avenant, c'est-à-dire le contrat qui lie les opérateurs commerciaux et les opérateurs d'infrastructures, qui s'appelle le contrat STOC, cet engagement de la filière devait se traduire dans un avenant STOC, et puis je vais aller dans les mots, mais je pense que vous allez comprendre, signature STOC V2, voilà, ça s'appelait comme ça. Eh bien, ça devait être formalisé, et je suis sûre qu'on nous dira que... Le contrat, et aujourd'hui, ça n'avance pas suffisamment vite. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, l'étape clé d'assurer la qualité de service via des contrats formels entre les acteurs n'est pas formalisée de manière précise avec tous les acteurs à 100%. Donc c'est un point majeur. Moi, j'ai une phrase que je dis toujours, les femmes et les hommes passent, les contrats restent. Et peut-être que je profite d'être à cette table ronde, peut-être pour solliciter l'ARCEP, les services, pour accompagner la contractualisation des signatures des contrats STOC VD jusqu'au bout, et qu'elle puisse transparaître, enfin qu'elle puisse finalement refléter des engagements de la filière et des engagements formels entre les acteurs.
Merci Ilham. Donc on a parlé d'un certain nombre de points qui ne sont pas encore arrivés à leur cible. Il y a des expérimentations en cours. En particulier, il y a une expérimentation en mode OI qui est actuellement en cours. Romain, est-ce que vous voulez revenir un peu sur cette expérimentation ? Et finalement, cette expérimentation, elle s'inscrit dans une perspective où on va passer d'un marché de primo-raccordement à un marché de churn, et où finalement il y aura des enjeux à long terme qui vont évoluer. Et j'aimerais bien que vous reveniez ensuite l'un et l'autre sur ces enjeux-là.
Oui, alors tout à fait, effectivement, il y a cette question qu'on a beaucoup de spécialistes dans la salle connaissent bien, qui agite la filière depuis longtemps, de savoir quel est le bon mode d'exploitation et qui, au fond, quel est le rôle de l'OC, quel est le rôle de l'OI dans un marché multi-acteurs, dans un marché qui est complexe, dans lequel on a plusieurs OI, on a plusieurs RIPS, et c'est comme ça qu'a été construit le plan France Très Haut Débit, on a plusieurs OC, et il faut trouver un processus d'exploitation qui fasse intervenir les uns et les autres à bon escient, de manière efficace, en structurant les rôles. Donc il y a un standard aujourd'hui industriel qui a émergé, qui est celui du mode STOC, et on a ce débat qui a été notamment repris par l'ARCEP, et donc il y a eu une demande de la présidente de l'ARCEP mi-2024, à laquelle Orange a fait suite en lançant des réflexions pour une expérimentation du mode OI. Alors cette expérimentation sur le mode OI, c'est une expérimentation qui se passe dans un contexte de fermeture du cuivre. Donc on est justement dans ce monde d'après, quelque part, où il n'y a plus de cuivre, où on n'a plus que la fibre, et on est donc dans un monde de churn. Cette expérimentation, elle se concentre uniquement sur ces cas de churn et pas sur les nouveaux raccordements, avec une intervention de l'opérateur d'infrastructure, en l'occurrence Orange, qui va faire du PM au PB. Quand il y a des choses au-delà, c'est bien l'opérateur commercial qui va en rester en responsabilité. On en revient finalement au fondement de la réflexion qui a fait que la filière s'est orientée vers le mode STOC, hein, qui est justement de se dire que dès lors qu'il faut intervenir chez le client, on est dans le monde de l'opérateur commercial pour des raisons concurrentielles évidentes. Donc voilà, il y a tout cet équilibre un peu fin à trouver sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, où sont les frontières des uns des autres, qu'il a fallu discuter entre Orange et les opérateurs commerciaux qui vont participer à l'expérimentation. C'est pour ça que ça a pris pas mal de temps. L'autre point de difficulté, c'est que le mode STOC aujourd'hui, c'est une réalité industrielle qui se structure dans des processus décidés au sein d'Interop Fibre. Aujourd'hui, cette déclinaison n'existe pas pour le mode OI de manière très concrète, et donc l'articulation des rôles des uns et des autres n'est pas précisée dans ces processus. Donc là aussi, il a fallu construire un petit peu à partir de rien. Et donc, cette expérimentation, elle va se passer dans un mode relativement artisanal, c'est-à-dire par l'échange de messages structurés et pas dans des processus complètement cadrés, comme c'est le cas aujourd'hui sur tout ce qu'on fait sur le mode STOC, mais ça va permettre de tester. Et donc, concrètement, cette expérimentation, elle va se lancer au mois de novembre, pour une première durée de 6 mois. Ensuite, il y aura un bilan qui va être fait dans deux communes qui sont fermées au cuivre, la ville d'Angres dans le Pas-de-Calais et le Ménil-Saint-Denis dans les Yvelines. Donc ça va permettre de tester ce mode OI dans ces cas qu'on appelle PLP prend la place, donc dans ces cas de churn et dans ce mode d'intervention qui est limité. Et donc effectivement, ça pose la question d'un peu plus long terme, qui est que effectivement la fermeture du cuivre, ça a été rappelé, ça commence à devenir une réalité tout à fait tangible dans les territoires. On a des gros volumes de zones fermées qui arrivent devant nous, et ça nous amène, je pense, à ouvrir une réflexion sur ce dont on a besoin dans ce nouveau mode où on va changer. On va plus être en train de faire du raccordement, du primo, des nouveaux raccordements pardon, en masse, mais on va gérer du churn. Et donc ça nécessite de fiabiliser des choses qui sont peut-être pas encore parfaites aujourd'hui. Donc ça légitime une réflexion assez ouverte effectivement sur des cas de mode OI sur un périmètre à déterminer. C'est l'objet de cette expérimentation. Il faut aussi également se poser des questions de réalignement du parc, c'est-à-dire du terrain avec les systèmes d'information. Ça a été aussi précisé par Ghislain. Il y a un certain nombre de réflexions en ce sens. Et puis il y a aussi des réflexions engagées chez les opérateurs pour fiabiliser le référentiel de prise construite, où là aussi on a un certain nombre de manques ou de problèmes qui ont été liés à cette phase de primo raccordement en masse. Donc voilà, globalement aujourd'hui on est quand même sur une filière qui s'est outillée, instrumentée, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'indicateurs, l'ARCEP suit aussi pas mal de choses au sein de l'observatoire, les opérateurs voient beaucoup de données, avec l'intervention LO2 on arrive dans beaucoup de temps réel, mais le fait de passer dans un monde où il y a plus de churn, ça nous amène à peut-être compléter tout ça pour fiabiliser un certain nombre de processus. Dans un marché français, je le rappelle, parce que ben, tout ça c'est une évidence, mais il faut quand même se le dire, on a un marché français qui est hyper concurrentiel. Donc un marché hyper concurrentiel, c'est un marché où il y a beaucoup de churn, on a les prix les plus bas d'Europe, c'est bien qu'on a ce marché concurrentiel, ça a plein d'avantages, et on ne remet pas en question le caractère concurrentiel du marché bien sûr, mais il faut bien voir que d'un point de vue des processus opérationnels de la fibre, on est dans un univers qui est un peu adverse. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est plus difficile d'assurer la qualité quand on est dans du multi-acteurs avec beaucoup de churn que dans un monde qui est assez figé avec peu d'acteurs. Mais voilà, c'est Ça a plein d'intérêts par ailleurs, et donc il faut trouver cet équilibre.
Ilham, vous voulez ajouter quelque chose ?
Alors, je regarde l'heure. Je fais ma conclusion en même temps ou... Ouais, c'est bon ? J'ai une minute, ok. Alors, en une minute, je vais essayer de dire ce que du coup, j'écoute Romain, j'ai envie de dire plein de choses aussi. Alors, pour faire assez simple, j'ai entendu multi-acteurs. Alors, nous sommes, est-ce qu'on peut se dire qu'on est dans un nouveau monde ? Où en fait l'exploitation de demain se fera avec un écosystème de plusieurs opérateurs d'infrastructures. D'accord ? Et donc à ce niveau-là, une expérimentation en mode OI, elle est extrêmement structurante. Et je comprends qu'aujourd'hui, elle va s'étendre au moins jusqu'en avril 2026, si je comprends bien l'expérimentation en mode OI. J'ai deux demandes. Je considère que quand on vient ici, on fait des demandes. Donc voilà, les deux demandes. La première, c'est que dans la mesure où demain, l'exploitation du réseau se fera avec l'écosystème des multi-acteurs, des opérateurs d'infrastructures, et que j'ai connu notre filière et notre secteur comme des expérimentations avec plusieurs opérateurs d'infrastructures dans le passé. Je parle aux pilotes d'extinction du cuivre, je parle aux premiers, les premiers pilotes FTTH. Donc à ce niveau-là, toute expérimentation sur l'exploitation future de nos réseaux doit se faire avec plusieurs opérateurs d'infrastructures. C'est extrêmement important ce que je dis. Donc, à ce titre, deux volets. Le premier, c'est que les expérimentations en mode OI doivent se faire avec d'autres opérateurs d'infrastructure. Il y a des demandes qui ont été faites et des projets qui ont été présentés de manière extrêmement sérieuse par Axion et par Altitude Infra, et Lumière devrait en faire une dans pas longtemps. Donc, elles doivent être prises en compte et on ne peut pas attendre avril 2026. La deuxième, c'est que l'expérimentation, elle ne soit pas fermée. Aujourd'hui, les retours de l'expérimentation pour les autres opérateurs d'infrastructure, pour lesquels ça peut avoir des conséquences pour elle, à qui ça va avoir un enjeu, parce que pour nous, évidemment, l'expérimentation, elle doit produire des résultats solides, elle doit être utile dans l'avenir, eh bien, les retours se font dans des groupes de travail et c'est trop partiel. Il faut que tous les opérateurs d'infrastructure soient intégrés, associés aux phases de cadrage dans les expérimentations. Et donc, ce que je veux dire en phrase de fin, aujourd'hui, l'exploitation future de nos réseaux, elle se fait avec et pour les opérateurs d'infrastructures au service de nos concitoyens. Voilà.
Merci Ilham. On est déjà un peu en retard. Je voudrais préciser qu'il y aura possibilité de vous poser des questions sur vos interventions respectives à la fin de la prochaine table ronde. Et donc, je vais tout de suite proposer aux autres participants de la table ronde, c'est-à-dire M. Patrick Chaise, sénateur de l'Ain et président de l'Avocat, Monsieur Christophe Bouillon, président de l'ANCT, Monsieur Éric Jamaron, président d'Axione, Monsieur Nicolas Tarbes, premier vice-président de Gironde Numérique, conseiller départemental du canton Entre-deux-Mers, vice-président de la communauté de communes du Créonnet et maire de Saint-Léon, et Laurent Lagagné, directeur de la réglementation du groupe Iliade, de me rejoindre, s'il vous plaît. Vous installez comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Merci de vous être joints à nous. On va aborder surtout les sujets de pérennité économique des réseaux d'initiatives publiques, hein, et les sujets de résilience de ces réseaux. Si vous avez une réaction par rapport aux précédents propos sur la qualité de service, je vous inviterai à poser des questions après la table ronde, de manière à ce qu'on ne soit pas trop en retard, parce que je suis déjà en retard. Monsieur Christophe Bouillon, la Cour des comptes, dans un rapport qui a été publié en avril 2025, a recommandé que la ANCT accompagne les réseaux d'initiatives publiques dans la mise à jour de leur plan d'affaires et dans la relation avec leurs délégataires. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, revenir sur ces constats et sur les constats qu'a fait la ANCT, que vous avez fait, et les plans d'action qui sont prévus par la ANCT, s'il vous plaît?
Alors d'abord, vous dire que le point de vue que j'exprime, c'est à la fois le point de vue du président du conseil d'administration de l'Agence nationale de cohésion des territoires, mais aussi président de l'Association des petites villes de France. C'est d'ailleurs une singularité de cette agence d'avoir dans son conseil d'administration les représentants de toutes les associations de collectivités locales, que ce soit les maires ruraux, Villes de France, l'AMF, Département de France, Région de France. Toutes les associations sont bien présentes et c'est utile. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir un point de vue qui se dégage assez régulièrement de la part de ces associations qui représentent elles-mêmes beaucoup de collectivités réparties partout en France. Comme vous le savez, ce programme national très haut débit est un programme important qui a été initié avant même la création de l'ANCT et qui est un engagement financier conséquent. Les chiffres sont quand même utiles à rappeler parfois parce qu'on a beaucoup donné des chiffres tout à l'heure qui sont des chiffres concrets, notamment en termes de couverture, et il faut s'en féliciter. J'observe, ça a été indiqué tout à l'heure, les 93 ou 94 même % de couverture sur la France entière. On peut d'ailleurs zoomer au niveau des territoires ruraux, on est à 91%, donc la trajectoire est tenue et plutôt bien tenue. Mais c'est 13 milliards d'euros, dont 3,5 de l'État et 0,5 de la part de l'Europe, le reste étant porté par les collectivités. C'est donc on doit, au regard de cet investissement, au regard de cet objectif pour l'ensemble du pays, qui est un objectif de cohésion des territoires, faire en sorte à ce que, et c'est la mission première de l'ANCT, on garantisse à la fois la qualité et la durée de ce que nous sommes collectivement en train de faire. Mais c'est vrai, il y a des interrogations, elles sont légitimes, en ce qui concerne, j'ai envie de dire, le modèle économique global, qui est une des conditions aussi de la pérennité, bien évidemment. On ne peut pas imaginer un seul instant que tout cela perdure dans le temps si, d'une certaine manière, parce que le modèle est mal assis, ça pose des difficultés vis-à-vis des opérateurs. Ça va de soi. On a évoqué tout à l'heure la question, notamment, et c'est souvent une remontée qu'on peut avoir de la part des collectivités, de ce qu'on qualifie de raccordement complexe. Il y a, et vous le savez, sur la partie publique, des fonds de cohésion, des moyens qui sont déployés, même si aujourd'hui ils arrivent à saturation, il faut faire en sorte à ce qu'ils puissent être pérennisés d'une certaine matière. Et puis il y a ce que fait la DGE sur la partie privée d'une certaine manière, donc d'un côté 250 millions, de l'autre côté 16 millions, et donc il faut vraiment aller jusqu'au bout de l'exercice. La proposition de la Cour des comptes, elle est pertinente, elle est intéressante. Je cite au passage que notre agence, hein, qui a simplement 5 ans d'âge, elle a déjà plus de 40 rapports qui concernent beaucoup des programmes qu'elle porte, des actions qu'elle mène. On est ausculté, ouvert de tous les côtés et on attache une importance particulière, bien évidemment, à chaque fois que ces rapports accroche des préconisations. Donc on va regarder concrètement comment l'ANCT peut répondre à cette recommandation, même si, et je le dis, il y a toujours une question de moyens humains. C'est vrai qu'aujourd'hui, les moyens humains de l'ANCT, et vous l'imaginez bien, sont concentrés sur l'objectif premier qui était porté par le programme national sur le très haut débit, c'est-à-dire sur le déploiement du réseau. Et j'ajoute à cela qu'on a aussi d'autres missions. Je rappelle le New Deal mobile, la 5G. Je rappelle également la mission particulière qui est la nôtre sur l'inclusion numérique, par exemple. Et je rappelle aussi, c'était peu su, qui est en lien avec les collectivités locales, on les accompagne aussi dans des objectifs d'usage et dans des objectifs aussi de cybersécurité. On s'est associé avec l'ANSSI, avec le secrétariat national à la défense nationale. Donc on a tout un panel d'actions vis-à-vis des collectivités. Pour être très clair, on pourra bien évidemment aller vers cette recommandation à partir des moments où on nous confie les moyens humains pour pouvoir le faire de façon efficace. Mais je n'apprends cela à personne. On est dans un moment d'effort. L'agence aussi est appelée à faire des efforts. Et donc, il faudra, le cas échéant, si le futur gouvernement décide qu'on aille jusque-là, eh bien, de nous donner en parallèle les moyens pour pouvoir le faire.
Ok. Je retiens quand même les dispositifs de financement des raccordements complexes dont vous avez parlé tout à l'heure, qui permettent quand même d'améliorer le raccordement des particuliers. Éric Jamaron, Axione gère un certain nombre de réseaux d'initiatives publiques. Est-ce que vous voudriez revenir vers nous sur le sujet des coûts d'exploitation des RIP? Et est-ce que d'éventuelles difficultés que vous auriez pu observer sur certains d'entre eux sont en fait généralisées, ou est-ce que ça concerne en fait seulement certains réseaux par rapport à l'ensemble de votre parc?
Bonjour à tous. Écoutez, moi je suis déjà très content d'être ici parce qu'on vit un moment nouveau, un moment unique. Ilham et Romain l'ont rappelé, ça fait plusieurs années que le sujet de l'économie globale de ces réseaux est sur la table avec le développement à la fin de la construction. On arrive sur le sujet de l'exploitation. Et je pense que ce moment est intéressant parce que, même s'il est imparfait, il permet au moins de mettre réellement les sujets sur la table. Alors, on a cette consultation de l'ARCEP qui est partie. C'est une brique, une petite brique du dispositif. Évidemment que c'est un sujet qui est important, les coûts d'exploitation. Alors, non, c'est même pas ça. C'est le maintien en condition opérationnelle. Alors, chez Axione, on a mis longtemps à comprendre ce que ça voulait dire. Est-ce que ça veut dire qu'on ne développe pas les réseaux, qu'on les maintient comme ça, etc., etc. Donc, on va dire que sur cette dimension-là, il y a un parti pris qui est celui du travail de l'ARCEP, qui est un travail, je dirais, analytique, intéressant. Je me reconnais plus dans le titre de la table ronde, là, assurer la pérennité des réseaux en fibre optique. Ça me paraît plus global que le maintien en condition opérationnelle des réseaux d'initiative publique. Parce que derrière tout ça, j'ai quand même, et je crois qu'on est tous très préoccupés par ça, le sujet de la péréquation qui existe au niveau du territoire national, l'équité de traitement, etc. Enfin bref, tout ce qui fait la République. Et je ne voudrais pas que cette brique omette ou nous permette pas de discuter de ce vrai sujet. Donc du coup, sur les coûts d'exploitation, moi j'ai du mal à ne pas parler des tarifs, puisque en fait pour moi les coûts d'exploitation sont un passage pour parler des tarifs. J'ai un sujet particulier sur les délégations de services publics, c'est que je gère un service public, les tarifs sont dépendent des coûts, en fait, et ce qui n'est pas le cas de la relation qu'on a avec les opérateurs commerciaux. Donc, du coup, on a globalement, c'est ce qu'on disait depuis un certain temps, j'ai entendu avec gourmandise les propos d'Ilham et de Romain, surtout, on n'est plus à, finalement à nier les problèmes ou à dire qu'il n'y a pas de problème, notamment sur les raccordements, mais on est plutôt à essayer de trouver des solutions pour maintenant rétablir la qualité des réseaux et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Donc ça, c'est bien. Ce que je veux dire, c'est que sur le contrat de, sur les contrats qu'on gère, donc les tarifs qui sont liés au coût d'exploitation, notre sujet, nous, c'est un fonctionnement global du contrat. À un moment donné, avec une fédération, on avait parlé de refonte du pacte FTTH. Parce qu'en fait, si je terminerai par ça, si j'observe en fait aujourd'hui le fonctionnement, la relation qu'on a avec les OC sur la base du contrat FTTH, et particulièrement avec mon ami Laurent, on a des sujets de lecture du contrat. C'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a un contrat. Alors, on ne l'a pas tellement négocié, je vous assure, en 2016. L'objectif, c'était quand même de faire venir les opérateurs. C'est un objectif national. On n'a pas tellement discuté des tarifs, parce qu'il y avait des lignes directrices qui, si on ne les respectait pas, empêchaient la perception de subventions. Et donc, on a un contrat aujourd'hui qui est en vigueur et qui, malheureusement, ne nous permet pas d'avoir des relations saines et apaisées avec nos plus grands clients. Et du coup, c'est ça qu'il faut travailler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'échelle d'Action, à l'échelle des SPV, donc des délégataires d'Action, il y a 56 millions d'impayés. Donc 56 millions. Il faut avoir l'air insolite quand même pour supporter 56 millions, qui sont liés à plein de choses. Des contestations, un tarif qui a augmenté et on préférait le précédent tarif. Bon, c'est possible. Hein. Je rentre dans ma boutique, dans une boutique, je dis voilà, je voudrais une baguette. Je préférais quand elle était à 1 euro qu'à 1,10 euro. Et je repars avec la baguette en disant ben, contentez-vous d'un euro, parce que ça, le reste, je ne vous le paierai pas. Okay. Donc ça, c'est... Et là, ça nous met en grande difficulté, je finis par ça, c'est que nous, on commence à avoir, et c'est assez logique, des injonctions de collectivités qui sont quand même nos délégants. Et donc nous, on est juste délégataires, donc on passe, et on doit exécuter les directives d'un délégant, hein, c'est catalogue de services, etc. Et on ne l'applique plus, en fait. On ne sait pas l'appliquer. Et donc, on est pris en étau entre le marteau et l'enclume, quelque part. Et donc c'est pour ça que je me félicite grandement du moment qu'on va vivre, puisque ce moment qui démarre par la Cour des comptes, la NCT, qui aujourd'hui est relayée par l'ARCEP, c'est juste une porte ouverte pour traiter un sujet de manière plus globale, dans l'esprit d'une péréquation, dans l'esprit d'une pérennité, et donc dans cet esprit de dire que ce qu'on a réussi sur la construction, parce que collectivement, ce qu'on a réussi sur la construction, c'est-à-dire d'avoir le pays, sans doute l'un des pays les plus équipés en fibre optique du monde, quelle que soit sa densité, il ne faudrait pas que tout d'un coup, on tombe de l'escabeau parce qu'on n'arrive pas à traiter collectivement des sujets qui ont trait à l'exploitation et à la vie du réseau, en fait, parce qu'un réseau, c'est vivant. Souvenez-vous, c'est un vieux souvenir, mais il y avait un service universel à un moment donné qui fonctionnait. Il n'y a plus de service universel. Nous, aujourd'hui, je crois qu'on dépense à peu près entre 5 et 6 millions pour les adductions de bâtiments, parce qu'il n'y a pas de fourreau, parce qu'il n'y a pas de poteau. Donc voilà, donc du coup, c'est un point d'entrée qui est hyper intéressant, et c'est pour ça qu'on est très enthousiaste chez Action à l'idée de travailler avec l'ARCEP, à l'idée de travailler avec les autres acteurs, parce que c'est maintenant qu'il va falloir résoudre le sujet.
Merci. Du coup, Laurent, la perche était tendue. Est-ce que tu voudrais répondre à Éric Jamaron, et en particulier, s'il s'avérait que dans la mise à plat des coûts qui est en train d'être réalisé dans le cadre de la consultation de l'ARCEP, s'il s'avérait qu'il y avait un certain nombre de réseaux qui sont en déficit structurel, comment est-ce qu'un opérateur comme Free accepterait de prendre en compte ce problème, et comment vous accepteriez ou pas de revoir vos tarifs ?
Merci Marie-Christine. Je pense qu'il y a effectivement, je pense que tu as très bien posé la question. On ne pense pas, en tout cas, chez Iliad, qu'il y ait de problèmes généralisés. Alors, on n'est pas exploitant de réseaux FTTH de RIP en France. On exploite des réseaux FTTH, y compris ruraux, en Pologne, en Irlande notamment. On voit les coûts. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de déficit structurel des réseaux RIP en France, essentiellement parce qu'on observe les marchés financiers et les transactions financières sur les opérateurs de RIP. Donc ce qu'on voit grosso modo, c'est que des opérateurs se vendent et sont donc achetés par des fonds d'investissement ou d'autres opérateurs à des niveaux de valorisation élevés. Un niveau de valorisation, c'est juste l'actualisation des profits futurs pour une entreprise. Et donc, un niveau de valorisation élevé traduit une confiance des investisseurs dans le fait de mettre leur argent dans cette entreprise en échange des profits futurs prévus par le business plan. Donc, s'il y a des transactions, c'est que les investisseurs ont confiance. Alors, tous les investisseurs peuvent se tromper. Peut-être pas tous non plus. Enfin, c'est quand même des professionnels qui agissent en France et dans d'autres pays. Je prendrais juste peut-être un exemple, mais bon, il y a eu beaucoup de refinancement d'Orange Concession, d'Altitude cette année. En fin d'année dernière, par exemple, le fonds d'infrastructure, qui est un très bon fonds d'infrastructure, Vauban, qui est aussi actionnaire d'Actione, a racheté 30% des actions que la Caisse des dépôts détenait précédemment dans les SPV des sociétés dans les sociétés de projets opérées par Actione. Donc, ce faisant, je pense que la Caisse des dépôts a dû réaliser une bonne opération d'ailleurs, mais ce faisant, en achetant, félicitations, c'est notre argent à tous d'une certaine manière. Donc, et ce faisant, Vauban, qui était précédemment à 50% d'actions dans Actione, enfin dans les SPV d'Actione, est passé à 85%. Les données sont publiques, c'est pour ça que dans les rapports d'activité, et avec des niveaux de valorisation qui traduisent des confiances importantes dans la rentabilité des opérateurs. Par exemple, les 30% de THD 5962 ont été achetés 50 millions d'euros, je crois, ce qui fait une valorisation de 300 euros par prise, ce qui suppose que chaque prise va rapporter 300 euros en moyenne sur les 20 prochaines années, c'est-à-dire à peu près 2 euros par mois. Donc, c'est très bien. C'est-à-dire que l'économie fonctionne bien. Les investisseurs et les financiers ont confiance dans le système FTTH RIP, au global. Ensuite, tu as raison, Marie-Christine. C'est la manière dont nous analysons le problème aussi. Il n'est pas exclu que sur certains RIP, il y ait un problème. Moi, je m'appelle Laganier, c'est un nom qui est originaire de Lozère. J'ai un petit attachement à ce département. Bon, la Lozère, c'est exploité par Orange Concession. Donc, c'est Orange et la Caisse des dépôts, ils ne se plaignent pas pour l'instant. C'est des gens courageux. Mais la Lozère, c'est un département de la taille des Yvelines, avec 70 000 habitants. C'est-à-dire qu'on met tous les habitants de la Lozère dans le Stade de France, il n'est pas plein. Donc c'est juste impossible que le réseau soit à l'équilibre un jour. Donc effectivement, ce type de réseau ne peut pas être à l'équilibre. Et à mon avis, structurellement, enfin peut-être qu'Orange dira le contraire, donc Orange doit, j'imagine, opérer une péréquation au sein de son portefeuille de RIP. Un jour, peut-être que le problème se fera jour, et je doute que le problème puisse se résoudre au niveau de la Lozère. On pourrait dire on monte le prix, on double le prix, on triple le prix. Mais à partir du moment où on triple le prix, les gens ils vont pas prendre la fibre, ils vont prendre Starlink. Starlink qui commercialise à 30 euros par mois. Donc on aura triplé le prix, il n'y aura plus d'abonnés et le réseau ne sera toujours pas équilibré. Donc il n'y aura pas de solution pour maintenir en état d'exploitation vraisemblablement sur très longue période le réseau de la Lozère, si ce n'est des mécanismes de péréquation extra-lozériens.
Merci Laurent. Je voudrais revenir en fait sur un autre réseau qui est le réseau de la Gironde. Donc Nicolas Tarbes, la Gironde porte son réseau à travers Gironde Numérique. Donc vous avez une vision très concrète et opérationnelle hein, de l'équilibre économique de votre réseau. Est-ce que vous êtes à l'équilibre sur votre territoire et quelle est votre analyse?
Alors déjà, la Gironde n'est pas la Lozère, parce que nous, on parle de 520 000, 530 000 prises de fibre optique qu'on a réalisées donc, en 6 ans avec notre délégataire qui est Orange Concession Gironde Très Haut Débit. Un petit rappel, RIP Girondin, c'est plus de 38 000 km de réseau. C'est un département qui fait 12 000 km². C'est le plus grand chantier département numérique de France. Donc, ce n'était pas une mince affaire de déployer. Tu l'as dit, Eric, on a fait ça collectivement. Donc, c'est déjà une première étape. Mais on l'a fait, c'est vrai, dans des conditions économiques qui, aujourd'hui, nous laissent peu de marge. Alors, la Gironde, je dirais, ce n'est pas, je pense, le cas partout, mais c'est un territoire plutôt favorisé économiquement, malgré le fait que c'est un milieu rural. Hein, plus de 80% du réseau se fait hors métropole. Beaucoup de câbles en pleine terre. Donc ça veut dire qu'on a eu aussi beaucoup de poteaux. Donc on aura des vrais sujets de résilience, on va en reparler en suivant. Mais oui, notre DSP concessive aujourd'hui, elle est à l'équilibre, à aujourd'hui. Mais pour autant, elle est fragile. Et il faut qu'on soit prudent parce qu'on a le phénomène de fluctuation, notamment avec beaucoup de co-investissements au départ qu'on a eu. Donc ça, c'est bien parce que ça amène du cash. Mais maintenant, c'est fini. On a plutôt des recettes, on va dire, récurrentes maintenant de location. Voilà, ce qui nous oblige finalement à être très prudents sur notre équilibre financier dans le temps, de réajuster en permanence en fait le modèle d'équilibre, et puis piloter dans le temps ce qu'on appelle la rentabilité économique. On n'a pas trop le choix de le regarder de façon scrupuleuse et dans le temps. Voilà, donc oui à l'équilibre, avec un taux de pénétration, on va dire, qui était basé sur les recettes étaient basées sur des taux de pénétration du cuivre de près de 80%, et on sait très bien qu'on sera en dessous, donc ça fera des recettes en moins aussi à venir. Et puis des recettes à minima pour, je dirais, maintenir le réseau, mais pas forcément le moderniser ou le rendre robuste. Et ça, voilà, tu l'as dit, ça a été déployé dans des conditions très ric-rac. Donc on va devoir forcément retravailler ces modèles, prévoir les coûts nécessaires pour pouvoir assurer la résilience et la robustesse de ces réseaux.
Merci beaucoup. Patrick Chaise, quelle est votre réaction suite aux différentes interventions? On a parlé de problèmes de péréquation, on a parlé de problèmes de résilience. Comment vous voyez les choses?
Bien, d'abord, bonjour à toutes et à tous, et merci pour cette invitation à cette table ronde où je bois un peu du petit lait, dans le sens où les témoignages, et notamment d'Éric Jamaron, nous replonge dans le concret et dans la vie quotidienne. Alors, on parle de péréquation, mais la péréquation, je crois que ce n'est pas quelque chose qu'on évoque de façon récente, puisque, j'ose le rappeler, la première fois qu'on a parlé de péréquation dans le monde du numérique, c'était en 2009, dans le cadre de la loi Pinta, qui avait donc émis l'idée de créer un fonds de péréquation, qui avait en fait plusieurs objectifs. D'abord, un objectif de financement du premier établissement, qui a été donc par la suite remplacé quelque part par le fonds donc très haut débit du plan France Très Haut Débit pour pouvoir donc utilement réaliser l'investissement. Mais il y avait deux autres fonctions à ce fonds. Une fonction d'exploitation, qui a été largement évoquée par Eric, et une autre fonction qui était la fonction de la vie du réseau, qui était aussi évoquée à l'instant. Et je crois que ces questions, eh bien, elles méritent réponse, elles méritent d'être expertisées pour faire en sorte que, à ce stade, on trouve des solutions dans le sens où on est au bord du précipice. Je le dis ainsi. Je pense qu'on a pu vivre dans cette période de déploiement, donc bon gré, mal gré. Donc on a pu faire en sorte que des équilibres soient trouvés par le fait qu'il y ait eu justement des IRU qui ont apporté du cash, qui ont apporté donc des équilibres par d'autres biais. Mais dans un fonctionnement normal, dans certains territoires, ça ne fonctionne plus. Alors, ça vient de quoi? Ça vient d'abord du fait qu'on fait un choix implicite. Ce choix implicite, c'est le tarif unique. Parce qu'en fond, on pourrait remettre en cause le tarif unique. Pourquoi faire un tarif unique sur l'ensemble du territoire, alors même que, on le dit tous les territoires ne sont pas traités de la même façon et n'ont pas les mêmes équilibres économiques. Et ça, c'est un vrai choix politique. Ce choix politique, il faut l'assumer ou alors il faut le changer. Si on l'assume, il faut qu'on puisse trouver les mécanismes qui permettent de faire en sorte que ce choix politique fonctionne. Il y a un deuxième aspect, et Eric l'a justement rappelé, ce sont les lignes directrices. Puisque, donc, au niveau de chaque territoire, finalement, on a imposé un certain nombre de choses, mais là aussi de façon implicite. Et ce n'est pas une critique, c'est un constat qui a fait qu'on est parti avec des hypothèses assez figées. Et aujourd'hui, on a du mal à finalement trouver donc, le moyen d'équilibrer. Comment faire? J'allais dire, c'est assez simple, en fait, sur le papier. C'est de faire en sorte qu'on établisse un vrai équilibre de péréquation. Alors, c'est quoi l'équilibre de péréquation? C'est faire en sorte de pouvoir déterminer quel est, finalement, le coût moyen sur l'ensemble du territoire par donc une expertise territoriale, c'est-à-dire de comprendre de façon équitable et d'établir de façon équitable le coût d'exploitation par territoire, d'en déduire le coût moyen, de considérer que le coût moyen est le coût national, et pour ceux qui sont excédentaires par rapport à ce coût moyen, reverse cet excédent dans un fonds de péréquation, et pour ceux qui sont déficitaires par rapport aux moyens, sont compensés par le fonds de compensation. Et c'est très simple, encore une fois, sur le papier. C'est sûrement plus compliqué, effectivement, à mettre en œuvre. C'est même très compliqué à mettre en œuvre. Mais ce n'est pas impossible. Et je pense très sincèrement que si on veut se sortir de la situation dans laquelle on est, en gardant les hypothèses que j'évoque, qui sont des hypothèses partagé, je le crois, par l'ensemble des acteurs, il faut aller vite maintenant pour mettre en œuvre la solution.
Merci Patrick Chaise. Dans cette deuxième partie de table ronde que je voudrais qu'on démarre, j'aimerais bien qu'on revienne sur le sujet de la résilience. Et il se trouve que Gironde Numérique a été l'un des premiers territoires a mené une étude sur les actions à mener et leur priorisation, pour assurer la résilience de réseau. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu un retour d'expérience sur ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place et vos conclusions?
L'élément déclencheur pour nous là, sur le sujet de la résilience, ça a été l'épisode tragique des hyperfeux qu'on a connu en Gironde à l'été 2022 sur la Teste et l'Andiras. Voilà, sur lequel on a vraiment pris conscience qu'on avait beaucoup de vulnérabilités par rapport à ces effets météorologiques. Et puis on s'est dit, voilà, au niveau du syndicat, il faut absolument qu'on anticipe ces sujets parce que c'est un sujet à la fois de continuité d'activité. Si le réseau tombe, c'est des impacts économiques, sociétaux importants sur le territoire. Voilà, et c'est là qu'on a vraiment mesuré que ce réseau était vital, que ça serait le réseau du futur et qu'il fallait absolument, au-delà de son exploitation, le rendre robuste et fiable dans le temps. Voilà. Donc on a décidé de mener en fait un audit pour identifier ces vulnérabilités. Et puis on a mis en place une méthode en fait, qu'on appelle la méthode du scoring, qui nous permet en fait, finalement, de guider la décision politique sur l'investissement, sur la résilience, et de regarder l'impact de l'euro investi sur la pondération de la résilience. Et en fait, trois scénarios se sont dégagés au travers de cette étude. Un premier scénario où en fait, on avait la résilience d'urgence, en fait, c'est-à-dire 3,5 millions à l'échelle du RIP, c'est pas grand-chose. Hein. On a une valeur résiduelle de ce réseau aujourd'hui évaluée à 2 milliards. Donc 3,5 millions, c'est largement à l'échelle dans nos capacités. Donc ça, on se dit, en faisant les fonds tiroirs avec nos délégataires, on va largement pouvoir se financer ça. Et ce qui est intéressant, c'est avec 3,5 millions, on arrive à pondérer plus 30% de résilience. Donc ça veut dire que voilà, on peut, de façon ciblée, stratégique, arriver avec peu de moyens, pondérer et obtenir un taux de résilience important. Et puis après, si on veut faire, on va dire, une résilience plus approfondie, c'est entre 20 et 60 millions à l'échelle de la Gironde. Donc ça, clairement, on ne peut pas le financer. Il est hors de question que les collectivités seules financent cela. Donc reste la question, c'est comment on va le financer et comment on va l'attendre. En tout cas, voilà, on a aujourd'hui cet outil de décision qui guide nos politiques et on sait précisément où on doit investir pour répondre à ce besoin de résilience.
Merci. Éric Jamaron, est-ce que vous, Axione, est-ce que vous pourriez nous présenter les chantiers qu'Axione a mis en place sur la résilience des réseaux? Quels outils vous avez mis en place? Et puis également, ce que vous avez fait pour anticiper les gestions de crise, en fait.
La résilience, pour moi, c'est trois éléments. Le premier élément, c'est la conception, la construction du réseau. Donc, évidemment, un réseau avec des NRO sur boucle est plus résilient qu'un réseau avec des NRO en antenne. Donc, c'est d'abord bien construire le réseau de qualité et une belle architecture qui résiste aux pannes qui ne manqueront pas d'arriver. Ensuite, c'est effectivement l'organisation des équipes. Donc, là, en fait, on ne doit pas être très différent d'autres opérateurs. Donc, c'est la formation, c'est les entraînements en gestion de crise, c'est les plans de continuité d'activité, les plans de reprise d'activité. Enfin, bref, c'est des choses qui ont déjà été largement partagées dans des différents séminaires ou webinaires. Et ensuite, c'est le cas pratique. Le cas pratique, c'est-à-dire, en gros, les pannes ou les problèmes, les incidents, ça arrive. Donc, on a... ça me fait penser, c'est le même chiffre quasiment, pour améliorer la résilience en fait d'un réseau, puisqu'on a eu, donc Laurent a eu la gentillesse de citer Capfibre, le réseau du Nord-Pas-de-Calais. On a effectivement au niveau d'Axione mis un peu moins de 4 millions pour traiter des sujets d'urgence en fait sur la résistance du réseau en fait. Et ensuite sur les cas pratiques, sur la crise. En fait, on a un NRO qui a brûlé récemment, là, il y a quelques mois. Et là, il y a eu une excellente coopération technique avec l'ensemble des intervenants et notamment les opérateurs commerciaux. En fait, le principe est assez simple, c'est ça fait presque rire, mais on a des NRO sur roulette quelque part. Donc, si un NRO brûle, on a la capacité à en amener un autre, à le raccorder rapidement au réseau de collecte. Et avec une coordination parfaite avec les opérateurs commerciaux qui vont installer leurs équipements électroniques à l'intérieur pour rétablir le service à leurs clients. Donc ça s'est très bien déroulé puisque 80% à peu près des clients ont été rétablis en moins de 24 heures, alors que tout avait brûlé à l'intérieur. Le bémol de ces opérations, là entre opérateurs d'infrastructure et opérateur commercial, ça a bien fonctionné. Franchement, les équipes ont parfaitement... Là où le bémol, c'est avec les cellules de crise de la préfecture ou d'autres éléments de cette nature. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, je suis désolé, je ne suis pas familier des termes, mais on a beaucoup de mal à être référencé parmi les préfectures. Donc, on sait très bien que le problème du rétablissement, c'est d'abord l'énergie, ça c'est clair. Mais on n'est pas convoqué quand il y a des crises majeures, donc par exemple des incidents graves climatiques. Quand il y a des problèmes comme il y a eu ce NRO brûlé qui a affecté quand même plusieurs milliers de personnes, on n'a pas pu joindre la préfecture parce que personne ne répondait. On n'avait pas le bon numéro en fait. On n'existe pas en fait en tant qu'opérateur d'infrastructure. Je crois que, alors il y a toujours un délai évidemment de mise à jour des fichiers, j'imagine, en préfecture, à peu près, sans doute, peut-être 2-3 ans. Mais donc, comme ça fait à peu près 3 ans qu'on fait des réunions et qu'on essaye de se faire référencer, je ne sais pas si c'est le cas pour les autres opérateurs d'infrastructure, mais ça, c'est un vrai sujet, et surtout dans le cadre de l'extension du CRIV. À un moment donné, il va vraiment falloir que l'opérateur d'infrastructure, quel qu'il soit, soit bien impliqué dans toutes les gestions de crise directement, sans attendre, et bénéficier, comme d'autres intervenants, ou d'autres opérateurs d'importance vitale des moyens de logistique, des moyens d'organisation et des moyens d'information qui sont mis en place en cas de crise majeure.
Christophe Bouillon, la NCT accompagne les collectivités dans l'établissement des schémas locaux de résilience. Déjà, est-ce que ce volet opérationnel dont vient de parler Éric Jamaron est inscrit à l'intérieur de ces schémas locaux de résilience? Et puis d'autre part, combien de territoires vous avez accompagnés? Et est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce retour d'expérience et sur cette question que posait Éric Jamaron, qui est de dire, mais finalement, peut-être que l'ensemble des opérateurs d'infrastructure ne sont pas mis dans les boucles des cellules de gestion de crise.
Alors d'abord, rappeler que c'est une condition, la résilience, de la durabilité, de la pérennité. Il y a les questions financières, on l'a vu avant. Il y a la question aussi de qualité, ça a été rappelé, mais la résilience garantit aussi la pérennité. Je crois que c'est important, d'où l'exigence qu'on a d'établir en effet des schémas locaux de résilience. On accompagne des collectivités, d'ailleurs, Gironde Numérique est accompagné dans ce cadre particulier. Mais ce que j'observe, c'est qu'on n'a qu'une dizaine aujourd'hui d'accompagnement de cette nature, une dizaine de schémas locaux de résilience qui sont clairement établis. Pourquoi ? Parce que la priorité aujourd'hui, elle est bien évidemment, encore une fois, sur le déploiement. Et pourtant, on n'a pas le choix. Mon collègue, à l'instant, évoquait les terribles incendies qui ont ravagé une partie de son territoire. La vérité aujourd'hui, c'est que l'ensemble du pays est concerné par des événements climatiques extrêmes, que ce soit des inondations, que ce soit des températures extrêmes, canicules ou autres. Aucun territoire aujourd'hui n'échappe à ces situations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut réagir et réagir encore plus vite, me semble-t-il, sur cette notion même de résilience. Il faut trouver les bons véhicules. Moi, je prends au bon ce que disait à l'instant Éric Jamaron. Nous pensons qu'il faut placer cette question de la résilience, cette question de la réalisation de schémas locaux de résilience au niveau des comités de concertation locaux, à la main du préfet, avec les opérateurs. À la fois les opérateurs d'infrastructures, ça va de soi, les opérateurs aussi de réseau, et puis aussi les services de secours, les services d'urgence, les collectivités locales, faire en sorte que le CRA7PC connaisse l'existence et le numéro de téléphone de l'opérateur d'infrastructure, ça va de soi. Il faut aller peut-être un peu plus loin. On sait qu'il existe au niveau national un plan national d'adaptation qui prend en considération un certain nombre d'évolutions à l'échelle des territoires pour s'adapter au dérèglement climatique. Je pense qu'il faut qu'il y en ait des déclinaisons et qu'il y ait un volet spécifique sur la question du numérique. De la même façon, il existe au niveau des communes ce qu'on appelle des plans communaux de sauvegarde. Il n'y a pas de volet dans ces plans, il n'y a pas de fiche, il n'y a pas de volet qui concerne cet enjeu pourtant essentiel qui est celle du réseau. Pourquoi ? Parce que derrière ce réseau, il y a, et ça a été indiqué également par Éric Jamaron et Nicolas Tarbes, la question de plan de continuité de service. Il y a des questions de rétablissement, il y a des questions aussi d'intervention de secours. Le réseau était aussi essentiel pour cette raison-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a urgence à aller un peu plus vite qu'on ne peut le faire aujourd'hui. Et je pense qu'il faut vraiment situer cet enjeu à la maille et à l'échelle des préfectures, parce que le préfet, et par ailleurs, c'est sa fonction, est celui qui est, d'un point de vue opérationnel, à la manœuvre lorsqu'on connaît des événements de cette nature. Et donc, il faut qu'il ait toutes les qu'il faut qu'il prenne en amont, en considération, l'ensemble des enjeux et des problématiques.
Merci beaucoup. Laurent, côté Free, comment un opérateur commercial qui est client, en fait, de ces infrastructures analyse et gère la résilience des services qu'il va avoir à fournir à ses clients?
Merci. Alors, je ne sais pas si ça peut te rassurer, mais en fait, on a tous le même problème avec les préfectures. Même les gros opérateurs comme Free, qui sont des opérateurs d'importance vitale, si tu veux rentrer dans le PC de crise, il faut que tu achètes un badge Orange, voire France Télécom. Ça marche encore mieux. C'est même pas une boutade, en fait. C'est une réalité triste, mais c'est celle-là. On opère un réseau fixe et un réseau mobile. Pour un opérateur comme nous, La résilience, ce n'est pas la résilience des réseaux, évidemment, c'est la résilience des services. Et pour nous, les efforts de résilience sont largement axés sur la continuité de services mobiles en situation de crise. Parce que c'est tout bête, mais quand ça pète, c'est l'électricité pète à chaque fois. Donc de toute manière, la box, elle ne marche plus. Et s'il y a une inondation et qu'on est assis sur le toit de la maison pour appeler les secours, c'est avec le mobile qu'on le fait. Donc nous, notre enjeu vis-à-vis de nos abonnés, c'est d'assurer en situation de crise climatique notamment, une continuité de service par l'intermédiaire des réseaux mobiles pour l'essentiel. Ça ne veut pas dire que le problème des réseaux fixes n'existe pas. Mais pour nous, en termes de continuité de service, il est évident qu'on va investir l'argent dans la résilience des réseaux de collecte, l'absence de SPOF, enfin de SPOF sur les POP des réseaux de collecte bouclés et sur le last mile, enfin les derniers kilomètres, c'est sur le mobile. C'est ça qui doit tenir si on veut que les gens puissent appeler les secours. Ensuite, on a eu une très bonne surprise parce qu'on a rétro-analysé les données, nous aussi, sur les taux d'incidents. Et en fait, les OI ont construit les réseaux FTTH ruraux pas tant à l'arrache que ça, en fait. Vous avez changé énormément de poteaux. Et ça a aussi coûté 12 milliards. Mais en fait, vous avez quand même changé pas mal de poteaux. Et
négocier.
Et en fait, le taux d'incident est assez peu dépendant de la ruralité des réseaux. Les données sont publiques d'ailleurs, parce que l'ARCEP publie. Alors nous, on utilise nos données privées de nos propres abonnés individuels, mais l'ARCEP publie de manière agrégée le taux d'incident qu'aux OI par réseau, en fait, tous les trimestres. Et si vous corrélez ça au taux de ruralité, vous voyez qu'il y a assez peu d'incidence de la ruralité sur le taux d'incident. Il y a les câbles aériens qui cassent un peu plus, évidemment, que des 30 mètres de câbles aériens en longueur moyenne sur les RIP, cassent quand même un peu plus que 9 mètres de câbles souterrains en zone AMI. Mais un peu plus, 20% de plus, pas tellement plus. Et par contre, la suractivité dont on parlait au point de flexibilité sur la zone AMI va créer un taux d'incident largement supérieur à celui de la zone RIP. Donc au final, je sais que ça surprend, mais les données sont publiques, elles sont sur le site de l'ARCEP. Vous pouvez faire le tableur Excel tout à l'heure, hein, c'est en open data. Et en fait, il y a assez peu, le taux d'incident est même. Alors peut-être que ça coûte quand même plus cher à réparer à la campagne qu'en ville, mais le taux d'incident est globalement le même. Ça, c'était plutôt une bonne surprise. Ce qui n'était pas le cas sur le cuivre. Parce que sur le cuivre, les poteaux, ils penchaient, et quand il y avait un coup de vent, ils tombaient. Sauf que quand les OI RIP, et vous-même, les maîtres d'ouvrage, vous avez déployé les réseaux, en fait, quand le poteau, il penchait, vous n'avez pas mis la fibre dessus. Vous avez redressé le poteau, renforcé le poteau, ou mis un nouveau poteau. Du coup, maintenant, il tombe moins. Ce qui est plutôt une très bonne surprise pour nous.
Merci. Donc, si je reprends les propos de Free, donc un des axes de résilience pour un opérateur commercial, c'est le mobile pour la fibre. Patrick Chaise, est-ce que vous voulez rebondir un peu sur ces propos ?
Oui, je veux bien. Je veux bien parce que j'entends la solution système D, mais ça peut pas être une solution qui soit une solution universelle, pour une raison simple, c'est que les abonnements fixes et mobiles sont à bon sens dissociés, ou alors il faudrait donc qu'il y ait une offre spécifique à chaque client fibre, on offre le mobile pour pouvoir être en sécurité et s'en servir en résilience. Ça pose quand même une petite difficulté pour les opérateurs commerciaux qui n'ont pas de mobile et qui seraient donc dans une concurrence assez déséquilibrée. Donc moi, j'entends la solution qui est une solution, donc encore une fois, système D. Mais je ne crois pas que ce soit une solution qui puisse être universelle. Alors, pour quand même parler de la question de la résilience, qui est un vrai sujet, hein, et j'entends vos propos aux uns et aux autres, moi, là aussi, excusez-moi de le faire pour la deuxième fois, mais je suis assez convaincu que la résilience est un vrai sujet politique. Et c'est un sujet politique qui prend ou qui a pris beaucoup plus d'importance dès lors que Orange a pris la décision d'arrêter son réseau cuivre, puisque le réseau fibre, finalement, et je le dis avec un peu d'humour, mais était jusque quelques mois donc un réseau de confort qui permettait des bons débits, des grands débits, des meilleurs débits, mais qui n'était pas le service universel. Et d'ailleurs, qui n'est toujours pas le service universel. Donc, mais qui, de fait, le devient. Là aussi, on est dans des situations qui sont des situations de fait, qui nous mettent à l'évidence avec un certain nombre de responsabilités et qui mettent le pouvoir politique avec cette responsabilité-là. Donc, moi, je pense que sur ce point-là, il faut que les pouvoirs publics s'emparent du sujet, donnent le cap, donnent aussi le cadre de ce que l'on souhaite pour ce réseau et en déduisent aussi le mode de financement. Et là, je reviens et que je complète mon propos de tout à l'heure. C'est le troisième volet, hein, qui est le volet de la vie du réseau, donc la vie du réseau dans sa vie naturelle, mais aussi de son amélioration, et de son amélioration donc, avec des impulsions qui sont des impulsions plus politiques. Et ça fait l'objet donc, d'un autre fonds, qui est un fonds de péréquation à l'investissement, qui sera de toute façon nécessaire, à mon sens, à court terme.
Merci. J'ai tenu le planning, et donc je crois qu'on a du temps pour quelques questions. S'il y a des questions de la salle, hein, ou si certains d'entre vous veulent rebondir sur les précédents propos, je vous en prie. Alors, je ne vois strictement rien, donc.
Bonjour, Sylvain Fritsch, cabinet à la Rigue. Je voudrais rebondir sur la première partie de la table ronde sur les coûts et tarifications. Ça n'a pas été évoqué que les délégataires, contrairement à ce que disait M. Jamaron, ne sont pas juste entre le marteau et l'enclume. Ce sont des candidats lors d'un marché initialement, et les subventions associés à ces DSP ont fait l'objet de négociations d'étapes dans le cadre d'un marché public. Et donc, comment aujourd'hui on ne fait pas trop vite un lien entre dire que des réseaux sont pas rentables, alors que c'est peut-être plutôt le plan d'affaires qui n'est pas réalisé? Et est-ce qu'on sait analyser pour quelles raisons? Et est-ce qu'on ne dit pas un peu trop vite que ce serait le marché ou des conditions externes? Et est-ce que, selon les acteurs publics ou privés qui participent, donc le délégant ou le délégataire, est-ce qu'ils ont un point de vue de penser que c'est le délégataire ou le délégant qui serait en faute et qui n'aurait pas respecté sa partie du contrat initialement ?
Merci pour la question. En fait, le sujet, c'est l'application du contrat. Quand vous êtes copropriétaire dans un immeuble, en fait, vous partagez la vie de l'immeuble. En fait, c'est la règle. Quand un copropriétaire ne partage pas la vie de l'immeuble, ou quand tous les copropriétaires ne partagent pas la vie de l'immeuble, c'est ce qu'on appelle, le bordel, quoi. Et donc, en fait, c'est le. Souvenez-vous que déjà la subvention ne doit porter que sur les investissements initiaux. C'est une règle. C'est la règle des aides d'État, et donc aucune subvention d'exploitation. Donc ensuite, vous avez des tarifs qui sont fixés. Donc, est-ce que les tarifs correspondaient au coût d'exploitation? Je ne sais pas. Ensuite, quand vous aviez, à l'époque, 2015, hein, souvenez-vous, 2015. Alors, il ne faut condamner personne. 2015, c'est le début du FTTH. Tout le monde est sur la DSL. Donc, il faut imaginer des règles nouvelles qui sont mises en pratique avec des modélisations, des modèles qui déterminent des lignes directrices. 10 ans plus tard, on peut faire le constat, ce n'est pas dramatique, c'est que le système doit s'ajuster. C'est pas grave. Mais vous aviez à l'époque le service universel. Ça veut dire quoi, le service universel? Ça voulait dire que quand vous aviez un nouvel abonné, probablement que cet abonné, à l'époque, il était sur du cuivre, donc le réseau génie civil, poteau, fourreau, avait été déployé par l'opérateur Orange, qui, lui, il y avait une péréquation du financement au niveau national dans les coûts du génie civil. Bref, il y avait un système qui permettait aussi de prolonger le réseau. Aujourd'hui, ce système n'existe plus. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez... et parallèlement, le plan itinéraire d'Orange a été nettoyé de quelques kilomètres ou centaines ou milliers de kilomètres d'ouvrages, donc de fourreaux et de poteaux, ce qui fait que vous vous retrouvez avec ce que vous pensiez un réseau disponible qui n'est plus disponible, même si vous le payez, puisque vous savez que ça, c'était une avancée politique majeure à l'époque. L'accès au génie civil d'Orange se paye par mois et par abonné avec une péréquation. Donc là on était vraiment dans la politique et pas la technique. Donc voilà, donc je veux bien porter, évidemment... La charge de l'inefficacité du délégataire. Moi, j'ai aucun problème. C'est juste qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où il faut un juge de paix, il faut, ou alors un collège de juges de paix, quelqu'un qui va, ou quelques-uns qui vont dire la règle, parce que ajuster la règle, parce que la règle ne fonctionne plus, je vous l'assure, sur la durée. Et le propre d'un plan d'affaires, mon ami Laurent, c'est à la fois de se projeter dans l'avenir et d'imaginer les bonnes nouvelles qu'on pourrait mettre dans l'avenir, même si elles ne sont pas là. Un plan d'affaires n'est jamais réalisé tel qu'il est prévu, parce que quand on prévoit dans les télécoms 20 ans, vous vous projetez 20 ans en arrière, vous voyez où on est dans les télécoms. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, moi je ne ferai pas la référence au plan d'affaires, je dis que le moment est... Et quelque part, le moment est au jugement, s'il faut juger de la performance de quelque chose, le moment est au jugement d'un médiateur, d'un tiers, qui va enfin pouvoir assainir et aplanir des situations de tension extrême qui existent entre les différents intervenants. Je ne dis pas que certains RIP ne doivent pas baisser leurs tarifs, j'en sais rien. Certains RIP doivent peut-être monter leurs tarifs. Peut-être qu'on parle de RIP et peut-être qu'on devrait parler de réseau, FTTH, enfin, etc., etc. Donc ça, c'est des sujets qui sont à la fois techniques, et en cela, l'ARCEP est un bon agent de tout ça, puisque c'est ce qui a été lancé au travers de la consultation publique et surtout de son analyse et de sa modélisation, puisque c'est annoncé comme ça. Donc ça, c'est super, c'est très bien. C'est juste que ça ne peut pas s'arrêter là, et je pense qu'il y a besoin d'autres intervenants. Le sénateur Chaise parlait de politique. Je pense qu'il y a besoin de politique, un petit peu. Mais je suis prêt à discuter avec vous, monsieur, hein, sur la performance des délégataires. C'est juste qu'il ne faut pas nier qu'aujourd'hui, on a signé tous un contrat de service à l'intérieur des contrats de concession, un contrat de service avec les opérateurs commerciaux en 2016 pour nous. Et d'ailleurs, c'était avec Free, le premier. On peut s'en féliciter. En 2016, c'était une première. Tous les opérateurs étaient plutôt à rejeter l'utilisation des RIP à l'époque. Eh bien, 10 ans plus tard, il y a plein de choses qui se sont passées, y compris des véhicules financiers qui ont pris place à la place des opérateurs. Je ne connais pas Free, moi, je n'ai jamais vu en fait. Je connais IFT, vous voyez, je ne connais pas Free. Je connais Scorfit. Je connais SDFast. Vous voyez, c'est ça mes clients, en fait. Donc, tout ça, c'est des éléments nouveaux qui ont perturbé ou modifié le constat de départ. Et moi, ce que je dis juste, c'est que c'est un moment
enthousiasmant, intéressant et unique que de se reposer toutes les bonnes questions qui font que dans 20 ans, on sera très content d'avoir des réseaux FTTH et fibres les plus performants et les plus développés du monde.
Est-ce qu'il y a une autre question ? Ou d'autres questions ? Non ? Il me reste donc à vous remercier pour votre participation à cette table ronde. Et je pense que je vais passer la parole à Laure qui va venir conclure cette journée.